J'espère que vous passez un bon mercredi soir avec nous, amateurs de sport. C'est le moment de la chronique Sport Business. Un menu très ambitieux ce soir. Plusieurs sujets, une couple de gros morceaux, mais quelques petites vites en commençant. On accueille bien sûr Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Dans un premier temps, permets-moi de te parler de basketball. Kawhi Leonard et le load management, c'est-à-dire de lui donner des repos pour être sûr que son genou tienne la route et qu'il puisse amener les Clippers en série. C'est un concept qui ne plaît guère aux Américains et aux médias américains. Maintenant qu'il n'est plus à Toronto, là, il va peut-être trouver, Kawhi, que les gens des Raptors étaient pas mal plus compréhensifs qu'on l'est actuellement du côté d'ESPN et même de la région de Los Angeles.
Mario, on a parlé à quelques reprises déjà depuis à peu près 3-4 ans. Là, c'était les Spurs de San Antonio avec Leonard, avec d'autres joueurs vedettes qui avaient commencé le processus de reposer des joueurs dans des moments critiques. Les équipes de l'NBA sont comme les équipes de la Ligue nationale de hockey. Il y a 82 matchs à jouer, puis il va arriver que tu vas avoir des 2-2. Ou de temps en temps, rarement des 4-5. 4 matchs en 5 soirs, c'est lourd. Là, c'est un 2-2. Pourquoi ça fait l'objet d'une critique aujourd'hui aux États-Unis? C'est que c'est un match à la télé nationale à ESPN. Et deuxièmement, ce sont les Clippers, avec Kawhi Leonard, une équipe favorite, contre la meilleure équipe de l'Est, les Bucks de Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo.
Fait qu'ESPN sont en colère parce qu'ils n'auront pas la vedette le soir d'un duel anticipé entre deux vedettes.
Exactement. Puis ce qui est intriguant, c'est que le match a lieu à Los Angeles. Alors, c'est pas comme si Leonard ne jouait pas sur la route où les gens partisans qui achètent des billets pour voir les Clippers et Kawhi Leonard seraient privés de cette action-là.
Il va jouer contre Portland, lui, à la place demain. Est-ce
Exactement.
Que c'est à Los Angeles ou à Portland?
Non, c'est à Portland.
À Portland.
Mais mon point, c'est que c'est encore plus important...
À TNT demain.
À TNT. L'autre réseau. Mais c'est pas une compétition de réseau, bien entendu. Mais c'est sûr qu'ESPN a protesté aujourd'hui. Mais la patate chaude, si on veut, là, c'est que la NBA, qui émet des amendes de 100 000 $ dans le cas où ils sont capables de prouver qu'une équipe a reposé un joueur sans raison valable. Dans ce cas-ci, les Spurs ont indiqué que Leonard avait une douleur au genou. Leonard, l'an dernier, à Toronto, a joué 60 des 82 matchs. Il était 98e, Mario, en minutes jouées pendant la saison régulière et premier dans la NBA en minutes jouées en série. Le résultat, les Raptors ont gagné le championnat. Alors, c'est une recette qui marche. Les Clippers ont une responsabilité envers les partisans, envers le joueur aussi.
Sauf qu'ESPN pense à ses codes d'écoute.
Bien
eux autres,
entendu.
Le championnat des Clippers, ça leur passe un peu du pied par-dessus la tête. Ils veulent des ratings. C'est comme si Carey Price ne gardait pas le filet le samedi soir. Exemple, au match de Radio-Canada ou de TVA. Puis là, on soupçonnerait Bell de... Non, je ne sais pas
qu'est-ce
qui se passerait.
Non, mais t'as raison.
Ça créerait une polémique.
D'ailleurs, quand les Canadiens donnent un repos à Price, généralement, c'est sur la route. Pour récompenser les partisans des Canadiens. Mais pendant ce temps-là, le fan à Philadelphie ou le fan à Boston, il veut voir jouer le meilleur gardien
c'est
au monde.
C'est comme si Ovechkin part dans l'alignement quand les Caps viennent ici ou Crosby prend congé s'ils viennent à Montréal.
Voilà.
C'est sûr qu'on gratinerait
un peu. C'est exactement pas tout à fait les Caps ou les Pingouins. Alors, le dossier là-dessus, c'est que la NBA a un problème de perception et on va conclure là-dessus, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une façon de mieux gérer. Parce que pourquoi ça fait plus d'effet dans l'NBA? C'est que c'est une ligue à 5 joueurs sur le terrain et les grandes vedettes prennent beaucoup de place.
Et Leonard n'avait pas récupéré le statut qu'il a depuis le championnat de Toronto l'an passé, puis il jouait au Canada, fait que ça dérangeait moins, je pense. Je
sais pas. On en entendait moins parler aux États-Unis, absolument. Mais à la fin, il y a pas une chose, il y a une chose qui est très claire, c'est que Leonard gère bien son corps, son temps et sa santé, et il est à l'apogée de sa carrière, et les Clippers vont peut-être en bénéficier à la fin de la saison, Mario. Et à ce moment-là, on se posera pas de questions. L'important, c'est qu'ils soient en pleine santé en série.
Un mot sur les Alouettes qui disputent un premier match éliminatoire en fin de semaine depuis plusieurs années. Jusqu'à quel point les Alouettes, le fait de gagner des matchs éliminatoires et peut-être de se rendre à Cookbury, de gagner à Cookbury, peut revaloriser la franchise, Ray, puis permettre à ceux qui vont en prendre possession éventuellement de faire de la business puis de remplir le stade pour des bonnes raisons sans donner de billets?
C'est une bonne question, Mario. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ça change pas ben l'optique de la transaction, d'un achat quelconque. Peut-être que la Ligue canadienne a déjà l'acheteur. Peut-être qu'ils vont l'annoncer durant la semaine de la Coupe Grey. Peut-être qu'il y a, il y a déjà quelque chose qui va se préparer pour faire un gros tapage publicitaire à cet effet-là. Une chose qui est claire, c'est mieux d'avoir une équipe qui gagne qu'une équipe qui perd. Donc la perception au niveau d'un acheteur, c'est qu'il y a un petit peu d'enthousiasme et d'énergie à l'idée d'acquérir une franchise de sport. Donc ça, c'est positif.
On repart de moins loin, là, c'est sûr.
Mais à la fin... Quand même que les Alouettes auraient un match à domicile en série, puis généraient des centaines de milliers de dollars de plus changera pas grand-chose dans le bilan financier d'une année comme cette année.
Qui était mais dans la perception, cependant.
Dans la perception, oui. Mais au niveau des pertes financières anticipées, il n'y a aucun effet. Tout ce que ça va faire, c'est un petit pansement sur une blessure qui est une hémorragie, puis l'équipe qui souffre beaucoup financièrement. Mais dans les yeux d'un acheteur, Mario, ça se peut que quelqu'un soit intéressé puis dise « Yes, c'est une équipe qui va nous emmener jusqu'à Coupe Grey, puis j'ai hâte d'acquérir cette équipe-là. »
Bref, retour sur la Série mondiale de baseball. Le fait que ça se rende en 7 matchs, même si aucune équipe n'a gagné un match devant ses partisans, est-ce que ça a sauvé l'intérêt de la Série mondiale de baseball en termes de cote d'écoute?
Ben, le 7e match a été presque le double des meilleurs matchs de la série, c'est-à-dire 23 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Et ça fait en sorte que c'est uniquement la pire série mondiale en termes d'audience depuis 5 ans. Mais 4 des 6 premiers matchs de la série mondiale étaient parmi les 10 pires de l'histoire des séries mondiales en termes d'audience. Mais le 7e match a bien réussi. Pourquoi? C'est que c'était une bonne série. Le problème, c'est qu'aucune des équipes a gagné à maison. Les partisans étaient un peu découragés. Puis l'autre chose, c'est que les matchs, même s'il y avait une allure d'être serré en début de match, Mario, c'était pas si serré que ça.
C'était pas tant que ça. Ouais, c'était tout un tout l'autre de match en match. Maintenant, on passe à la MLS et l'heure est au bilan. Une saison déterminée, on arrive à la finale. Toronto, Seattle encore. Donc, il y a des clubs qui s'imposent comme des équipes dominantes. Ça, c'est jamais bon pour une ligue quand on voit les mêmes clubs en finale. Et la valeur des franchises qui continue de grandir, de croître.
Ben, Forbes a sorti son étude, sa recherche, son sondage annuel, Mario, là, cette semaine. Écoute, là. Atlanta United vaut 500 millions de dollars US. Boy. 500 millions de dollars US, c'est plus que 4 ou 5 équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, rappelle-toi ce que je viens de dire. Là. Atlanta United sont en Ligue depuis 3 ans, Mario. Déjà valent 500 millions. C'est sûr, il y avait une moyenne d'à peu près 52 000 spectateurs au match. Ils ont gagné le titre l'an dernier. Toronto, t'as 395 millions de dollars. C'est énorme, Toronto FC. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils sont encore en finale. Ils pourraient gagner un deuxième titre en 3 ans. L'Impact de Montréal...
Ouais. J'étais curieux.
210 millions US.
Okay.
Alors, 210 millions US, si tu fais le calcul qu'ils l'ont acheté à 40 millions en 2012, c'est une augmentation de 650%. Alors...
Joey Saputo ne perdra pas une scène avec ça.
Tant
qu'il le garde, remarque qu'il ne fera pas une scène non plus.
Exact. Mais c'est une équipe...
On faut le voir des deux bords.
Grâce à la Ligue, qui prend de la valeur. Le raisonnement de la MLS, c'est qu'il y a un petit peu de spéculation. 17 équipes perdent de l'argent. La Ligue perd de l'argent, mais les franchises augmentent à vue d'œil. 30 % de plus que l'an dernier, pareille date, selon Forbes. Ils sont à 24 équipes, Mario, mais ils ont déjà 5 équipes de confirmées pour l'expansion. Les deux dernières, Saint-Louis-Sacramento, ont coûté 200 millions. Puis la prochaine, Mario, on pense que ça va être 300 millions pour une franchise d'expansion. Tu te rappelles-tu, Joe, qu'on disait que Vegas, là, à 500 millions, c'était beaucoup d'argent? Mais là, on est dans MLS, puis déjà, ils sont rendus à 300 millions.
C'est hallucinant.
Non, mais c'est vite. Alors, cette croissance-là, est-ce qu'elle est vraie?
Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que c'est fragile?
Ben, moi, je crois pas que c'est fragile. Ce que ça me dit, c'est que la Coupe du monde s'en vient aux États-Unis en 2026.
On s'accroche à l'espoir, ouais, à un certain espoir, mais c'est quoi concrètement l'espoir de?
Ben, l'espoir que le soccer va continuer à croître en popularité et en consommation. On a aussi des nouvelles ententes télé avec Univision et ESPN qui vont se signer en 2023. Ce qui veut dire que la business du soccer en Amérique du Nord va continuer et la MLS en profite pour insérer des équipes d'expansion le plus rapidement possible.
La perception qu'on a de l'Impact de Montréal en MLS, cependant, grimpe moins vite que la valeur de la franchise.
Ouais, t'as raison sur ce point, Mario, parce que l'Impact fait partie des équipes qui ont de la peine à suivre la croissance en termes de génération de revenus, en termes de commercialisation. Et l'Impact, qui en 2012 était une équipe moderne et une troisième équipe au Canada, aujourd'hui doit augmenter cette espèce de commercialisation-là, la façon de générer plus de dollars en revenus et d'en dépenser davantage sur les joueurs. Alors, c'est dur pour une équipe comme celle-là de suivre les Atlanta United, les Sounders de Seattle, Toronto FC, LA, Galaxy et les 5 ou 6 meneurs qui sont des machines à imprimer de l'argent actuellement. Alors, ça va être le défi de la MLS, c'est d'aider les équipes un petit peu plus en difficulté à réussir à rejoindre le peloton, si on veut, d'équipes qui sont capables de se normaliser financièrement.
Complétons notre chronique de ce soir en parlant de golf, alors que notre patron, Michel Tremblay, est parti jouer au golf pour 10 jours. J'espère qu'il va faire beau, mon Michel.
J'espère qu'il va écouter la chronique.
J'espère qu'il va écouter la chronique aussi. Mais l'état du golf, et je parle pas du golf de compétition nécessairement, mais l'industrie du golf, les terrains de golf, juste ici, là, dans le coin, il y en a plusieurs terrains. On en discutait ce matin au téléphone, Ray, ensemble, là. On faisait l'énumération des terrains qui avaient fermé ou cessé leurs activités. Quel est le portrait? Parce que il y a la fermeture anticipée d'un terrain prestigieux dans la région de Toronto qui, provoque beaucoup de réactions en ce moment. Hein?
Mais c'est ça qui a causé un peu notre réaction, toi et moi. Là. C'est le National Golf Club à Toronto, en banlieue, qui est un des terrains les plus célèbres et les plus difficiles au Canada. Et là, il y a une proposition qui a été soumise aux membres de vendre ce terrain-là pour un développement immobilier. On voit souvent cette situation-là. Aux États-Unis, en 2018, Mario, 205 terrains de golf ont fermé. La croissance des terrains est plus négative. Il y a 50 nouvelles constructions actuellement qui se déroulent.
Mais aux dépens de certains autres.
Aux dépens de certains autres. Mais ce que je veux dire, c'est que le golf, dans son industrie totale, c'est 84 milliards de dollars US. Il y a beaucoup d'argent. 51% des terrains de golf sur la planète sont en Amérique du Nord. Les Américains, évidemment, mènent à ce chapitre, même dans les fermetures, même dans les ouvertures et constructions de projets. Le Canada est quand même un des pays meneurs parce qu'on est très influencé par la PGA Tour, par la PGA of America. Mais l'industrie du golf qui existe, là, honnêtement, là, le golf existe depuis 600 ans, là, depuis que le premier gars a frappé une première balle dans un jeu, un concept, ça s'est toujours adapté et évolué au fil des années. Là, on va voir si le golf est capable de se maintenir. Parce que la PGA Tour n'a jamais fait plus d'argent. Les bourses n'ont jamais été aussi élevées, un peu grâce à Tiger Woods.
Ouais.
La LPGA va bien aussi.
Oui.
La participation de golfeurs aux États-Unis, Mario, c'est quand même impressionnant.
Vieillissante, la population qui joue au golf.
Mais il y a quand même...
On dirait qu'on disait même affaire le 20 ans. C'est toujours le défi, c'est tout le temps de faire entrer des jeunes dans ce sport-là.
Il y a 24 millions de golfeurs l'an dernier aux États-Unis qui ont joué pour la première fois.
Ah, c'est bon, ça.
Ça veut pas dire que
dépendamment à quel âge.
Oui, ça veut pas dire qu'ils jouent toutes les semaines.
Non.
Mais qui ont testé le golf. Puis aussi l'arrivée de produits qu'on appelle Top Golf, c'est-à-dire un genre de range de golf pour frapper des balles de luxe, où tu passes une soirée sociale entre amis, divertissement, musique, frappe des balles, mange et bois. Tout ça dans un concept. Ça aide à garder le golf un peu pertinent et d'actualité, sans que tu aies besoin d'aller passer beaucoup de minutes et beaucoup d'heures sur un terrain et à te déplacer.
Mm-hmm.
Tu sais, le golf a des défis comme le coût d'opération d'un terrain, le temps que ça prend dans ta vie, dans ta journée, tu comprends-tu? Mais parallèlement, il y a des solutions. C'est de continuer d'intégrer les jeunes et les filles et la diversité de la population pour les introduire au golf. Ce sont des solutions qui vont aider le golf à s'adapter aux années. Et surtout, Mario, la technologie dans le golf. Et on en voit de plus en plus. Comment la PGA Tour et la LPGA ont réussi à intégrer la technologie avec des Rory McIlroy et des Tiger Woods sur des ce qu'on appelle des vignettes vidéo et ainsi de suite, donner l'accès à l'intérieur du jeu.
Juste dans les voiturettes, sur certains parcours, je pense à Bromont, que je fréquente souvent, puis il y en a peut-être d'autres au Québec, mais veux pas, il y a une amélioration d'année en année. Là.
Oui, parce que l'expérience que je souligne à chaque une de nos chroniques, là, c'est basé sur comment tu te sens, toi, comme consommateur. Que ce soit d'aller voir un match de hockey au Centre Bell ou d'aller expérimenter une game de golf, une ronde de golf à Bromont. C'est très important pour que tu fasses le choix de ton argent puis ton temps discrétionnaire pour aller le dépenser. Là.
Il y a une chose qui est certaine, il y a bien des façons de passer des moments de qualité. Il y en a qui ont manqué de courant en fin de semaine et qui ont passé des beaux moments en famille. Mais je peux te dire une chose, c'est que sur un terrain de golf, je me suis pas trompé souvent. Mais en fait, je me suis jamais trompé. Je passe toujours du bon temps, soit avec mes amis, soit en famille. Et c'est génial.
Et on en parle là en novembre.
Puis je joue pas 60 fois par été, Ray. Là. J'ai pas le temps de jouer 60 fois.
Mais voilà.
Mais quand je joue, ça
n'a pas
de prix.
Parce que c'est du temps de qualité.
Ça n'a pas de prix, c'est ça.
C'est bon pour la business. C'est un sport de vie où tu peux jouer longtemps, même à 60, 70 ans.
Oui.
Et le faire en famille aussi, en vacances et en voyage. Il y a bien des facteurs positifs autour du golf.
L'idée de jouer avec tes enfants quand ils sont ados et de rejouer quand toi, t'es sur le bord du précipice en fin de carrière, mettons, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent,
non,
qui permettent ça. Ray, encore une fois, ce fut fort intéressant. On te suit, bien sûr, à @RayLalonde sur Twitter. Merci beaucoup. Excellente soirée, mon ami.
Merci, Mario.
Bye-bye. Au retour, Daniel Brière. Fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Des choses à dire, bien sûr, sur le Canadien, Kotkaniemi, les séjours dans l'Américaine. Est-ce que ça peut affecter la confiance d'un joueur? Daniel l'a vécu. Il nous en parle dans un instant.